La culture Zoé Sfèze, vous souhaitez ouvrir votre journal de la culture avec la grande salle de la Philharmonie de Paris, rebaptisée hier en grande pompe, salle Pierre Boulez.
Vous entendez ici le dialogue pour ombre double, pour clarinette et bande magnétique enregistré par Pierre Boulez et l'ensemble contemporain en 81. Et c'est là-dessus que s'est ouvert hier la cérémonie au cours de laquelle la grande salle de la Philharmonie de Paris a été baptisée du nom du compositeur Pierre Boulez, mort en janvier de cette année, qui, on peut le dire, même le rappeler, aura marqué le XXe siècle, qui aura surtout voulu penser l'existence d'une cité de la musique et d'une philharmonie, un baptême assez logique finalement, et d'autant plus pressant qu'en fait on s'est rendu compte au début de l'année que dans bientôt quelques semaines, à Berlin, va ouvrir la Barenboim Said Academy, dessinée par Frank Gehry et dirigée par le chef israélien Daniel Barenboim, qui lui a voulu baptiser sa grande salle Pierre Boulez. Paris ne pouvait tout simplement pas se faire damer le pion en fait. Et ce baptême a été surtout l'occasion d'un grand bilan de cette philharmonie, un an et demi après son ouverture très contestée. Il a presque résonné comme une réinauguration. Bruno Julliard, le maire adjoint à la mairie de Paris, qui était opposé au projet, a fait un retentissant mea culpa dans son discours. La philharmonie qui avait été inaugurée dans un climat très tendu, en raison notamment du conflit qui oppose toujours son architecte, Jean Nouvel, qui dénonçait une ouverture trop précoce, à Laurent Bayle, son patron, les deux se renvoyant la responsabilité des énormes dépassements de budget du projet. Eh bien, Laurent Bayle, hier, a appelé, dans un discours très émouvant, à une réconciliation nécessaire entre les deux.
Et on continue avec les excellents chiffres de la fréquentation de la Foire du Livre de Francfort qui a eu lieu la semaine dernière.
Oui, alors cette foire ne vous dit peut-être ou probablement pas grand-chose, mais c'est tout simplement la foire la plus importante, un peu le moment clé de l'année en matière de livres. C'est là que les éditeurs du monde entier préparent les best-sellers de l'année qui vient, là que la majorité des échanges internationaux en termes de livres se font. Toute l'année, les éditeurs s'y préparent et ils y ont vécu cette année encore un véritable marathon, comme le rappelait Vincent Monadet, le président du CNL.
Il va y avoir tout au long de l'année, partout en Allemagne, des rencontres avec des auteurs, des événements, des manifestations, avec une sortie très très visible à Francfort, puisque nous occuperons le pavillon d'honneur de la foire avec un pavillon France, où il y aura des rencontres, des débats, etc. Ça a l'air d'être une espèce de grand show, de grande tournée littéraire, mais en fait, derrière, ce sont de plus en plus de droits français qui sont cédés, c'est donc un courant d'affaires qui se crée ou se redéveloppe avec l'Allemagne, et des niveaux de cession que nous n'avions pas atteints depuis des années et des années.
Oui, alors effectivement, la foire de Francfort cette année a déjà accueilli en fait 142 000 professionnels. Cette année, c'était la Hollande qui était l'invité d'honneur, mais l'année prochaine, ce sera la France. Et on sait que d'ores et déjà, à l'issue de cette édition, on parle d'un chiffre, plus de 30% de droits vendus pour les œuvres françaises. En plus, le bilan, lui, ne se fera que l'année prochaine.
Les brèves maintenant, Zoé.
On ouvre avec la disparition du très grand peintre syrien Marwan. On l'a appris hier dans la Tribune des Arts. Il était né à Damas en 54, allemand d'adoption. Il a développé une œuvre à la croisée des influences arabes et occidentales. Il a été à la pointe du mouvement dit de la nouvelle figuration, qui prétendait faire émerger une troisième voie face aux tendances qu'était à l'époque l'abstraction et le nouveau réalisme. Ses tableaux sont présents notamment dans les collections du Tate Modern de Londres ou du Musée d'art moderne de la ville de Paris.
Et puis enfin, le site internet YAG, un des principaux sites gays français avec têtu, va fermer après 8 ans d'existence.
Le site spécialisé donc dans ces questions LGBT avait annoncé qu'il avait des grandes difficultés financières et ce dès l'année dernière. Il employait 6 personnes, dont 4 journalistes. Il va donc fermer ses portes, on va dire son site, d'ici la fin du mois. L'année dernière déjà, le journal Têtu avait dû fermer boutique, en tout cas la version papier, puisqu'il a été repris en main. Il n'existe aujourd'hui que sur le web avec une équipe restreinte de 4 journalistes.